Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème voilà, qui nous concerne à nous tous. Il n'y a pas de section. Un jour à la fois. Et bon, je vais commencer pour un événement qui s'est passé en 2006. Il y a eu un accident d'un avion aux États-Unis. C'est un avion commercial. Voilà, c'était un avion moderne. Voilà, d'un coup, il y a eu un accident, le moteur en plein air, le moteur est tombé. Et il y a eu plus de 213 morts dans cet accident. Et on sait c'est pourquoi. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays où le contrôle des qualités, tout est surveillé au minimum. Mais ils ont trouvé la raison, la cause de l'accident. Et c'est simplement, manque d'entretien. Ils l'ont pas fait parce que c'était un avion qui venait de sortir et on pensait que c'était un avion moderne, pas besoin de, voilà, de faire l'entretien. C'est comme les voitures ici en France. On fait pas un entretien après 4 ans. Le contrôle technique, ça passe après 4 ans. C'est pareil pour l'avion. On pensait qu'il fallait pas faire un entretien quotidien et voilà l'accident. Et les États-Unis ont dû sortir du marché ce type d'avion à cause de, voilà, de cet accident. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, comme on dit, on voit à l'extérieur que tout est bon, que c'est bien, qu'il n'a rien à faire. Et mais des fois aussi, dans nos vies, il faut qu'on fasse un entretien spirituel. Ce que je me dis depuis combien de temps? Qu'on vient à l'église, mais il n'y a rien qui change. On vient simplement au dimanche, voilà, on écoute la parole. Mais je me disais, depuis quand la parole tu n'as pas senti la parole, elle n'a pas changé, tu n'as pas vu un changement dans ta vie. Parce que la parole dit qu'il te transforme. Des fois, on vient au dimanche, on se nourrit le dimanche. Mais entre lundi et samedi, est-ce que tu fais un entretien? Est-ce que tu lis la parole? Mais peut-être que oui. Peut-être que tu lis la parole. Mais est-ce que tu as fait comme David l'a fait? Est-ce que David, il disait, alors je vais lire pour savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné comme message. Parce que tout le monde peut lire la parole. Un théologue connaît mieux la parole que nous, en connaissance. Mais la parole est vivante. C'est pas simplement dans la connaissance. La parole doit descendre dans leur cœur. Il faut le mettre en pratique. Depuis quand tu lis la Bible, mais tu ne la médites pas. Et tu n'as pas dit, Dieu, je ne vais pas laisser de lire plusieurs fois la même chose pour que je comprenne qu'est-ce que tu vas me dire. La Bible est comme un miroir. Là, dans Jacques 1, 23, verset 23 au 24, c'est marqué, car si quelqu'un écoute la parole, eux ne les mettent pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après, c'est regarder, s'en va. Il oublie aussitôt qu'il était. Des fois, on écoute, on vient dimanche, ou je ne sais pas, depuis 3 dimanches, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Dieu a parlé? Des fois, non. Peut-être oui. Mais quand on vient dimanche, Dieu prépare quelque chose de spécial pour vous, un repas, une nourriture spéciale. Mais il faut faire attention, il ne faut simplement pas partir avec cette nourriture. Parce qu'il faut se nourrir toute la semaine. Sinon, on va être spirituellement le rachitisme, comme on dit, on va être l'anémie. Parce qu'il faut manger tous les jours. Il ne faut pas simplement venir pour le dimanche, ok, ces paroles, ça va servir pour la semaine. Non. C'est bien, oui, de venir, mais il faut aussi, nous, qu'on fasse un entretien quotidien, mais pas simplement lire, mais méditer et ramener la parole dans ton cœur et la mettre en pratique, qu'il faut qu'elle soit vivante. Et des fois, nous, on vole rapidement, si vite. Donc, chaque jour, on est tout le temps full par le temps, par le travail. On passe vite, on est trop chargé des fois. Des fois, on n'a pas le temps. Je sais qu'on n'a pas le temps des fois. Parce que le travail nous consomme, voilà. Et des fois, on dit, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas le temps. Je dois chercher les enfants, mon travail. Ça tombe le soir, je suis fatigué. On prend le canapé, on prend la télé. Et après, on mange, on dort. Et des fois, on oublie Dieu. Ou des fois, on fait une prière rapide. Le soir, je dis la prière au micro-ondes. On fait 2 minutes, 3 minutes. On dit, oui, merci pour ça. Et on croit que voilà, qu'avec ça, c'est suffisant. Et toujours inquiet. Il y a des personnes qui vivent par le passé. Qu'on pense voilà, au passé, mais on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Ou il y a des personnes qui sont inquiètes pour l'avenir, pour le lendemain. Le passé est mort. Le passé, comme on dit, c'est passé. Le hier, c'est l'histoire. Le lendemain, c'est un mystère. Mais Dieu, il veut que tout vite. Aujourd'hui, pas ni hier ni demain, c'est aujourd'hui. Dans Matthieu 6, 34, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Rappelez-vous, à chaque jour, suffit sa peine. La seule chose que vous savez, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Parce que des fois, on est comblé pour penser d'ici dans 6 mois, dans 3 mois. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à l'avenir. Attention. Sinon, on va dire, on va la vivre qu'aujourd'hui, c'est tout. Non. Il faut faire des actions aussi. Il faut prévoir certaines choses. Mais quand ce travail, ça devient une inquiétude, ou ça devient chronique ou cyclique, ça va te consommer ta vie. Et là, il faut faire des changements. Dans Proverbe, chapitre 27, verset 1, ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. Comme je dis, des fois, on passe notre vie à nous inquiéter pour le lendemain. On pense tout le temps à ça. Qu'on ne vit pas aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Des fois, on croit qu'on est éternel, qu'on va vivre plusieurs années. Et ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui sait combien de temps on va vivre. Mais des fois, notre travail, des fois, on change les priorités. Et les priorités, des fois, qu'on fait tous les jours, ce n'est pas les bonnes actions qu'on doit faire. Je veux vous dire pourquoi. Votre responsabilité, c'est que vous pouvez changer aujourd'hui. Si vous pouvez faire quelque chose avec des petits ou grands changements, et vous pouvez le résoudre, Ça, c'est votre juridiction. C'est avec les actions que vous pouvez faire. Mais maintenant, je voudrais que vous écoutiez ce que Dieu dit dans Philippiens comme si c'était la première fois. Je vais vous dire un passage des Philippiens, mais je voudrais que vous écoutiez comme si c'était la première fois. Dans Philippiens chapitre 4, verset du 4 au 5. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous toujours, chaque jour. Toujours, il faut venir ici avec la joie. C'est pas un conseil. C'est pas que tu dis, ouais, si tu veux, non. C'est un ordre. C'est réjouir. Est-ce qu'on vient avec cette joie à la maison de Dieu? Il dit toujours, toujours, c'est chaque jour. C'est tous les jours. C'est tout le temps. C'est clair. Pas besoin d'interpréter ou faire de c'est tout. La parole est claire. D'après, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voilà, votre douceur. Dans une autre version dit votre amabilité. On doit être tout le temps amable vers les autres. Et vous tout le temps souriant. Moi, depuis longtemps, quand j'avais écouté ces paroles-là, ça a changé ma façon de vivre. Il faut tout le temps être content, souriant. C'est un ordre et tu dois l'apprendre. On continue avec Philippiens. Dans le verset 6, là pour les personnes qui sont inquiètes, qui sont en train de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Avec quoi? Avec des actions de grâce. Waouh! Il dit qu'il ne faut pas vivre inquiet tout le temps. Il connaît vos besoins. Il dit qu'il faut les dire. Et en plus, moi simplement avec ces passages, ne vous inquiétez de rien. Moi je serai tranquille. Mais en plus, il te dit, demande-moi ce que tu as besoin. Et en plus, il te dit qu'il faut le remercier par avance. Parce qu'il va te le donner. Avec des actions de grâce. Des fois, on n'a pas confiance en Dieu. Des fois, c'est nous qui on décide tout dans nos vies. Quand on change de travail, quand on décide de partir, quand on prend une décision. Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'avant de prendre une décision, tu mets à Dieu dans chaque décision? Soit une petite décision ou une grande décision, il faut qu'elle soit là. Parce qu'il y a des portes des fois qui sont ouvertes et des fois Dieu il n'est pas là. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont changés de travail, on le voit comme une bénédiction, parce qu'un changement de travail, tout en plus, on le voit comme bénédiction. Mais des fois, on le voyait plus dans l'église. Parce qu'il travaillait dimanche, ou il avait, voilà, il était trop, voilà, charge de travail, qu'il, voilà, il pouvait pas venir. Il était fatigué samedi, parce qu'il travaillait samedi, dimanche, il disait, voilà, c'est le seul jour que je peux me reposer. Et des fois, on pense que c'est des portes qui sont ouvertes par Dieu, et c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de rien. Une personne riche, ce n'est pas celui qui a le plus. Une personne riche, c'est celui qui a moins de besoins. Et des fois, nous, on cherche à avoir une maison. Moi, je voudrais avoir une grande maison, un château. Mais après, si ça veut que tu prends toute ta vie en travaillant et tu vas être fatigué et tu n'auras pas le temps pour Dieu, est-ce que ça vaut la peine? J'ai vu des fois des familles qui étaient dans un appartement. Après, ils sont passés dans une maison, quatre chambres, une piscine. Mais les enfants me disaient, après qu'on est passé, chaque personne vit dans sa vie, dans sa chambre. Avant, on mangeait dans une petite salle, dans une petite table, les seins serrés. Mais maintenant qu'on est en maison, chacun fait sa vie. On est éloigné. C'est bien qu'on soit béni. Bien sûr qu'il le faut. Tout le monde veut progresser. Je ne dis pas qu'il faut progresser. Mais attention après. Après, c'est quoi la priorité? C'est ça qu'il faut penser. Et en plus, un cadeau, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. De quelle paix il parle? La paix qu'on pense dans le monde, qu'on voit en forêt avec des oiseaux, comme ça, tout est beau. Ce n'est pas la véritable paix. La véritable paix, c'est même quand tu te trouves dans une tempête, tu as la confiance en Dieu. Vous vous rappelez une fois que quand j'ai prêché sur la tempête, paix dans la tempête, Jésus-Christ était dans le bateau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé à l'extérieur? Il y avait une tempête. On pensait qu'on allait, voilà, les disciples pensaient qu'il allait mourir. Mais lui, il dormait tranquillement. Et ça, c'est la véritable paix. Même quand tu vois la circonstance, que tu vois que tout tombe sur toi, que tu vois que ton économie, voilà, est pire en pire, tu n'as pas l'argent, que tu as un problème familial, tu as un problème avec ton époux, avec tes enfants. Mais si tu ne mets pas la confiance en Dieu, tu n'as pas la foi, voilà, tu ne pourras pas voir la véritable paix. Et ça, c'est la véritable paix qui te donne Dieu. Parce qu'il dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Et maintenant, je vous pose une question. Si quelqu'un vous dit que vous serez simplement un mois de vie, si quelqu'un vous dit, vous savez, voilà, il ne vous reste qu'un mois de vie, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie? Maintenant, c'est ce que tu fais. Les choses que tu fais actuellement, tu vas continuer à le faire? Ou tu vas changer? Le problème, c'est que des fois, ce qui se passe, ce qui est précieux devient commun. Et ce qui est commun devient précieux. C'est ça, voilà, la vie. Des fois, on ne prend pas l'importance, on ne donne pas un temps à nos enfants, à nos familles. On est submergé par le système, par le travail. Et des fois, on doit investir nos temps pour nos enfants, pour notre famille. On a eu un événement à l'école de mes enfants. Il y avait un cross. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion, voilà, d'être libre. Voilà, je suis allé pour les accompagner. Mais je me rappelle qu'il y avait un enfant qui a dit à maîtresse, où sont mes parents? Je veux courir avec eux. Et là, c'est des choses que des fois, tu écoutes à l'enfant. Mese de choski marque. Pas que nous, tout ce qu'on a vécu quand on était petit, on l'a dans, quand on est des adultes. Nous, on est le résultat d'un enfant qui a été peut-être bien élevé, qui a été peut-être maltraité, je ne sais pas. Mais c'est des choses voilà, que des fois, on ne donne pas une qualité de vie à nos enfants. Des fois, on est consommé par le travail. Je sais que c'est difficile, parce que pour moi, c'est difficile aussi. Mais maintenant, je sais que dès que je peux, je préfère perdre un CP, un congé, pour passer du temps avec mes enfants, que de l'accumuler pour les vacances. Parce qu'attention, c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, tu ne peux pas le faire demain. On ne sait pas si tu vas le faire demain. Et le temps, ce n'est pas cumulable. Tu ne peux pas cumuler le temps. Le temps que tu ne peux pas utiliser aujourd'hui, tu ne pourrais pas le récupérer demain. Ce qui est passé, est passé. Ce qui est perdu, est perdu. Malheureusement, le temps passe. Justement, j'avais un ami qui justement, il est en train de se séparer de sa femme. Et voilà, au Pérou, c'est encore pire. Ici, c'est une semaine sur deux, on se la garde partagée. Des fois, au Pérou, c'est la mère qui a plus de droits. Des fois, c'est le père qui simplement y a le week-end, ou des fois, deux, trois heures, quatre heures, ça dépend. Mais la plupart des cas, c'est la mère qui a plus la garde des enfants. Mais il me disait, maintenant, que voilà, que j'ai mes enfants, je dédie mon temps à eux. Je les parle, je les conseille, je sors avec eux. Et pareil pour mon ex, il fait la même chose. Mais on ne l'a pas fait quand on était ensemble. Parce qu'on pensait voilà, que comme ils étaient là, chacun dans sa tablette, que tout le monde était bien. Mais on ne donnait pas un temps à nos enfants. Et des fois, c'est ça qui nous arrive à nous. Le temps, le jour passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte, on pense que ça, voilà, c'est automatique. Qu'ils sont contents, qu'ils sont bien. Mais on n'a pas une bonne communication avec eux. Il faut donc apprendre à vivre jour à jour. Au jour le jour, voilà. Et pas s'inquiéter pour des petits problèmes. Il faut savoir prioriser. Ok, maintenant, je vous dis, voilà, je vous ai dit que si vous restez un mois voilà, de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on dit, je sais que moi, je vais ranger les choses, je ne ferai pas ce que je fais actuellement parce que voilà, il faut commencer à changer les choses. Vous savez, voilà, qu'est-ce que vous devez faire. Mais après, quand votre journée commence-t-elle pour vous? Vous croyez que quand ça commence votre journée? Le matin? Non. On pense que c'est le matin que ça commence la journée. Mais non, un jour, ça commence par le soir. Si on va dans Genèse 1, 5, au moment de la création, Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir ou il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Soir et après le matin. Pourquoi? Parce qu'on doit commencer le soir. Si on commence le matin, si tu te réveilles fâché, si tu t'es couché fâché, tu vas te réveiller fâché. Tu as eu une dispute le soir fâché, tu vas te réveiller pareil. Ça ne va pas changer. Mais si tu commences le soir, on sait que Jésus-Christ, il était allé très tôt prier pour se préparer pour la journée. Il était encore noir. Il priait, il se préparait pour la journée. Et nous, c'est pareil. Et on commence avec ce verset qui est très connu. Je crois que tout le monde le fait avant de se coucher. Je me couche et je m'endors. En paix. En paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, si on a la confiance avec Dieu, on dit, ok, j'étais fâché, je dis à Dieu, ok, Dieu, j'ai confiance en toi, je voudrais dormir en paix. Là, tu vas dormir et tu vas te reposer. Dieu sait qu'on a un jour, que notre vie, ça tombe tous les 24 heures. Mais il faut que tu te reposes parce que, voilà, on a besoin de se reposer. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu a combattu pendant que Israël dormait. Tu n'as pas besoin de dire que le combat c'est pour lui. Ce n'est pas toi de combattre. Des fois, nous, on voudrait tout faire avec nos forces. Nous, on est tranquille parce qu'on a des assurances. Ici, en France, c'est le pays des assurances. Et l'assurance, voilà, pour tout. Mais l'assurance, pour cas où ta assurance, voilà, ne couvre pas toute la totalité. Ça, c'est... Et on est tranquille avec les assurances. Parce que on est malade, on va à l'hôpital, on va voilà, à la pharmacie. Avec une assurance, on est tranquille. Et on ne dépend pas de Dieu. Vous voyez quand le peuple d'Israël mangeait la manne tombée du ciel. Et Dieu avait dit, vous pouvez ramasser tout et manger tout ce que vous, mais que ce jour-là. Par contre, il ne faut pas garder pour le lendemain. Non. Chaque jour, vous mangez que c'est ce que vous avez besoin. Pas plus. Il n'y a pas un congélateur pour mettre et dire, voilà, je vais garder la main pour une semaine. Non. Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui chaque jour. Il faut le chercher à lui. Dans Lamentation, chapitre 3, versets du 22 au 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qu'il dit après? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, on a une nouvelle opportunité. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté et sa compassion. Il y a une autre version qui dit sa miséricorde. Mais il sait que tous les jours, nous, on a besoin de travailler par jour. Et lui renouvelle tous les jours, chaque jour, il te donne une nouvelle opportunité. Mais l'opportunité, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas hier. Ça commence qu'aujourd'hui. Comme vous vivez un jour à la fois, vous êtes sage. Si vous pensez que aujourd'hui c'est le seul jour qui vous reste, vous devez vivre cette journée comme ça sera le dernier. C'est comme chaque jour Dieu nous dit de, il nous nourrit tous les jours avec son pain, comme on dit dans la prière dans Matthieu. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. C'est ce que tu as besoin. Tous les jours, il va te donner le pain, une parole. Il faut venir à lui, comme le man. Il faut dépendre de lui. Tous les jours, chaque matin. J'ai lu un livre, il avait une anecdote. Il y avait une personne qui visite un petit village. Et voilà, il visite un petit village, mais il aimait bien visiter le cimetière. Il est allé au cimetière, il a commencé à vérifier ce qui était écrit sur chaque, voilà, comment s'appelle, la pite, je ne sais pas comment s'appelle le tombeau. Voilà, qu'est-ce qui est écrit. Et c'est écrit 8 ans, 6 mois, 12 jours. Après l'autre, 10 ans, 3 jours, 1 semaine. C'est qu'est-ce qu'il passe là. Et là, il a parcouru tout le cimetière. Et c'était pareil. Bah, il s'est adressé à la personne, voilà, qui garde le cimetière. Il lui dit, qu'est-ce qu'il passe ici? Il y a des enfants qui meurent, ou peut-être il y a un cimetière pour les adultes. Il a dit, non, vous vous trompez. Là, c'est ce que vous regardez, c'est pas l'âge de la personne. Ah bon? C'est quoi ça? Là, ici, dans ce petit village, on a une coutume. On donne un cahier à chaque personne où il doit noter les meilleurs moments de sa vie. Et il va le noter, et après, quand il meurt, on va dans un notaire. Et là, il va, voilà, et on va faire le cumul de combien de temps il a vécu, les meilleurs moments qu'il a vécu. Et c'est ça qui, voilà, qu'on a mis sur chaque tombeau. Bah oui, pas bon. Imaginez-vous de, voilà, chercher les meilleurs moments dans chaque vie, dans tous les jours. Si vous notez, si vous commencez à faire ça, à dire, vivre aujourd'hui comme ça sera le dernier jour de ma vie. Et ça commence le soir quand tu donnes toutes tes charges à Dieu. Parce que la vie, c'est comme un cours, dit l'apôtre Paul. Un cours où tout le monde doit vous y arriver au but. Mais normalement, il dit qu'il faut y arriver au but. Et pour courir, il faut être léger. Là, il y a un chapitre, un passage aussi qui dit que tu dois laisser ton fardeau qui est lourd. Parce que tu vas voir une personne qui est en train de courir avec un sac à dos qui ramène, voilà, je ne sais pas, 100 bouteilles de litre d'eau ou de boisson de plus pour manger. Non? Quand tu vas courir, tu essaies d'aller le plus léger possible. Et des fois, nous, on a des charges. On fait des choses que des fois, on ne doit pas faire. On prend des responsabilités des fois que nous, on n'est pas responsable de tout. C'est pour ça qu'il faut prioriser. Par exemple, je pense que là, on vit tout le monde. Quand on va dans un restaurant, toute la famille est réunie, les enfants, voilà. Mais à cause de ça, on est isolé. Parce qu'on peut être tout le monde en train de manger. Mais il y a un qui est en train d'envoyer un message, un autre sur Facebook, un autre voit la série Netflix, un autre prend des photos pour envoyer à son ami. Et on ne profite pas de ces moments pour partager, pour parler. Parce que chacun vit dans son monde. C'est bien de prendre des photos. Je ne dis pas que c'est le contraire. Parce que si tu dis, voilà un souvenir. Mais après, si tu penses à ça, et après, voilà, on ne communique pas, on ne parle pas. Simplement, c'est pour le souvenir, pour guillemets, pour se montrer qu'on a une bonne famille. Ça, c'est pour garder l'image. Parce que dans Facebook, tu vas trouver tout le monde est cool. On dit la famille parfaite. Tu trouves les meilleures positions, les meilleurs gestes. Mais des fois, on est là, mais on n'est pas là. Je vois des personnes qui sont des couples qui sont là, mais chacun est dans son téléphone en train d'écrire. Mais ils ne parlent pas. Au moment de manger, ils mangent. Je le disais à ma femme, ils sont là, au lieu de parler, de profiter. Ils mangent simplement, ils se regardent, mais continuent avec son portable. Et on n'a pas la valeur à ce moment-là. Il faut vivre. Des fois, la personne meurt. Mais quand elle est morte, on dit oui, c'est une personne, c'est une bonne personne. On commence à lui dire beaucoup de choses. C'était la meilleure mère, le meilleur parent, le meilleur élève. C'était voilà. Mais on ne lui dit pas ça quand la personne était vivante. Parce qu'on pense qu'on va avoir le temps, le lendemain pour lui dire. Et on ne profite pas pour lui dire aujourd'hui que tu l'aimes. On ne profite pas aujourd'hui pour dire, voilà, toutes les choses qu'il fallait dire avant qu'il soit trop tard. Pareil, on va dans la plage, pareil, on va dans un parc, j'ai vu dans un parc d'attraction, on prend des vidéos. Mais pourquoi pour envoyer une personne qui n'est pas présente et tu perds ton temps pour le montrer à une autre personne et tu ne profites pas avec la personne qui est à côté de toi et tu penses plus à l'autre personne qui vit ces moments-là. C'est un moment privilégié. Mais non, on est ailleurs. Dans Psaume 90, 12, qu'est-ce qu'il dit David? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre corps acquiert la sagesse. La sagesse. Quand on commence à savoir comment il faut vivre chaque jour, on va acquérir la sagesse. La sagesse, ce n'est pas pour, simplement parce qu'une personne est intelligente, voilà, il a la sagesse. Je connais beaucoup de personnes qui sont ingénieurs, médecins. Ce n'est pas l'intelligence qui donne la sagesse. Ça peut être une personne qui ne connaît pas ses études et il est plus sage que toi. Ce n'est pas l'intelligence qui donne la sagesse. La sagesse vient comme savoir prendre une décision par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça la sagesse. Quelle limite de temps Jésus a-t-il dit qu'il y a pour la colère? Pour les personnes qui se fâchent rapidement. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Des fois, on a une dispute avec notre couple, ou nos enfants, mais des fois, on est tellement orgueilleux. J'étais comme ça, moi. Que des fois, parce que des fois, ce n'est pas moi qui a raison. Des fois, je sais que c'est l'autre personne. Mais des fois, notre orgueil, parce que nous dit, c'est elle qui doit le faire, ce n'est pas moi qui l'a. Et ce n'est pas ça. Il dit que même si tu as raison, il faut le faire. Il faut pardonner. Il faut corriger le problème. Il ne faut pas que tu coches en colère, en dispute. Et ça, c'est à cause de l'orgueil. Mais c'est tous les jours. On ne peut pas y aller à dormir tranquillement si on a une dispute avec quelqu'un. Dieu te dit que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas attendre voilà, le lendemain. Qu'il ne vienne pas se coucher avec toi. Le lendemain matin, il doit disparaître. Comment devrions-nous suivre Jésus-Christ? Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. à quel moment devons-nous réjouir et être dans la joie? Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quand? Voici le jour. Aujourd'hui. Et si nous perdons notre courage, comment va-t-elle se renouveler? 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Des fois, on est découragé. Des fois, on est triste. Et je sais. Et il y a des jours aussi qu'on va être triste toute la journée. Mais prends cette journée. Si tu veux pleurer cette journée, fais-le. Allez, faut s'éviter. Mais le lendemain, il faut encore se battre. Rappelez-vous que Dieu nous donne une opportunité chaque jour. Il renouvelle sa miséricorde. Il renouvelle son amour, sa compassion. Il nous donne encore du courage. Il dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, sinon un esprit de courage, d'amour. Et c'est ça que, voilà, qu'il faut faire. Il y aura des jours qui sont bons, il y aura des jours qui ne sont pas bons. Mais il faut avoir la confiance en Dieu chaque jour. C'est comme dans les films, on voit qu'on est dans une caverne très noire et on sait que la seule sortie, c'est quand on voit la lumière. Et on voit un point de lumière au fond, on dit, voilà, ça c'est la sortie. Pareil, on se trouvait dans le noir. Mais on sait qu'à la fin de chaque jour, il y a un soir, mais aussi, il y a le soleil qui va se réveiller. C'est pour ça que Dieu il a créé jour et nuit. On aura beaucoup de nuits, mais il y a un jour le lendemain. Et c'est ça l'espoir. Il y a un témoignage d'un pasteur que j'ai bien aimé. C'est Mathieu Barriette. Mathieu Barnett. C'est un pasteur américain qui a aussi une association qui s'appelle Dream Center. C'est un pasteur qui... Dream Center, c'est une espèce d'association où il va guérir les personnes qui sont des addictions, l'alcool, la drogue, voilà. Et lui, il a toujours, à n'importe quelle addiction, il va poser la même question à la personne. Il va lui dire, moi, je ne te garantis pas de te guérir ton addiction, mais simplement, je vais te guérir une journée. Mais la personne lui dit, je suis venu pour que tu me guérisses pour toujours. Je ne veux pas plus voir ni prendre d'alcool, ni me droguer. Moi, je suis venu pour que tu me guérisses. Je dis, moi, je vais te guérir qu'une journée. Je voudrais que tu sois sobre, ou que tu sois propre, voilà, qu'un jour. Mais est-ce que tu peux faire ça? Je lui réponds oui. Il dit, pourquoi? Je pose ces questions parce que des fois, notre but, quand le but est trop grand, c'est difficile à faire. Mais il dit, si on commence qu'aujourd'hui, commence par aujourd'hui. Oublie-toi d'ici que quand je l'ai fait d'ici sa semaine, commence que maintenant. Il dit, tout le monde peut le faire un jour. Et c'est sa méthode. Je te dis, je vais te garantir que tu vas être guéri un jour. Tu veux le faire, fais-le. Et ça commence comme ça. Un jour oui, peut-être, deux jours non. Mais au fur et à mesure, la personne commence à prendre l'habitude. Et ils sont guéris à la fin. Et ça commençait que pour un jour. Mais nous non. Nous, tout le temps, on voit un but. C'est comme la résolution de la nouvelle an. Tout le monde fait la résolution. Mais c'est marqué dans les statistiques, 75% à fin janvier, personne ne les suit plus. Parce que, parce qu'on s'est planifié de faire voilà, des grands objectifs. Tout le monde dit, oh, cette année, je prends la diète. 5 jours, je vais au gym. Heureusement que ma femme n'est pas là. Parce qu'elle me demande le gym. Et si je lui dis 5 jours, ça va être trop. Mais si ça commence pour 1 jour, pas les 5 jours par semaine, parce que tu ne vas pas le faire. Des fois, on se demande beaucoup de choses, beaucoup d'objectifs, un objectif très dur à attendre, que des fois, on perd l'espoir rapidement. Mais on ne commence que par le faire par aujourd'hui. Ça va changer les choses. Je ne sais pas si tu as des soucis avec un frère, tu dois te réconcilier, tu as des problèmes économiques, si tu dois pardonner quelqu'un. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais Dieu le dit, avant de venir, de donner ton offrande, tu vas corriger ton problème avec ton frère, ton prochain. On ne peut pas venir avec les problèmes. Si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Si tu as un fils, si tu as un époux, qu'il faut pardonner ou qu'il faut se réconcilier, fais-le maintenant. Tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Il faut vivre aujourd'hui comme ça sera ton dernier jour. Demain, c'est vrai qu'il a une nouvelle opportunité, si Dieu le veut. Mais nous, on pense qu'on est éternel, qu'on va vivre d'ici 20 ans. Mais j'aimerais que vous viviez d'ici 50 ans, 60 ans. Mais commence à vivre déjà aujourd'hui. N'attends pas le lendemain. Des fois, on attend les choses pour après, parce qu'on pense qu'on a le temps. Le temps qui est perdu est perdu. Le temps que tu n'es pas passé avec tes enfants, avec ton époux, avec ta famille, avec tes collègues, je ne sais pas, c'est perdu. C'est le moment de réagir. Ou pas ton demain. Si tu dois que Dieu te parle, pour les personnes qui ne croient pas, défie-le à Dieu. Je suis sûr qu'il va te répondre. Mais si tu viens avec un corps sincère devant lui, pour Dieu, il n'y a personne plus pécheur que l'autre. Dieu aime la personne. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu il t'aime comme tu es. Maintenant, hier ou demain. Mais il faut que nous fassions aussi le premier pas. Il faut qu'on mette tout dans les mains de Dieu. C'est le seul espoir. C'est pour ça qu'il nous donne le pain de chaque jour. Il faut venir vers lui chaque jour. Amen.